Chapitre 16. Je ne disconviens pas que j'ai tort fréquemment en portant des jugements trop entiers, mais comment modérer ma sévérité quand je touche du doigt le vilain acte commis par M. et Mme Duchélane ? Ils ont reçu une lettre de l'officier dont Marie m'a parlé et se sont empressés de la communiquer à leur fille. Alors, quelles sont leurs secrètes intentions ? À la louange rarement méritée, dit-on, de son sexe, ce jeune guerrier est constant. Il a écrit une épître enflammée pour renouveler sa demande. « Je sais, dit-il en terminant, qu'il est question d'un mariage pour ma chère Marie, mais qui l'aimera comme je l'aime ? Nous sommes faits l'un pour l'autre et il est toujours temps de revenir sur une décision funeste, etc., etc. » Marie, consternée, me fit lire cette lettre. Je la parcourus un voile sur les yeux et la lui rendis sans prononcer un mot. « Vous voyez, Jacqueline ?»« Oui, je voyais, je pensais surtout, et mon esprit ressemblait à un tourbillon. »« Je ne comprends pas, dis-je enfin, que cette lettre vous ait été remise. Ce qui est fait, et vos engagements sont formels. » « C'est horrible d'être condamné à mes regrets. Je ne puis pas supporter un pareil malheur. »« Vous n'aurez des regrets que si vous le voulez bien. Déchirez cette lettre et ne pensez qu'à votre fiancé. »« C'est facile à dire pour vous, qui n'êtes pas intéressé dans la question. »« Hélas, pas intéressé dans la question. Mais mon devoir était de me taire et de soutenir la cause d'André. »« Alors, que voulez-vous faire ? » repris-je. « Vous n'avez pas l'intention, j'imagine, d'épouser André et de penser à un autre ?»« Je ne sais pas quelles sont mes intentions. Je sais que je suis malheureuse, très malheureuse. »« Allons donc, Marie, votre cas n'est pas pitoyable et, avec un peu d'énergie, vous sortirez de ce prétendu malheur. »« Je n'aime pas l'énergie, je ne veux pas en avoir, je n'aime pas qu'on me prêche. » « Je ne vous prêche pas, je vous réponds simplement. Mais je ne tiens pas à continuer cette conversation, croyez-le bien. Je m'en vais, indignée, et je n'ai rien à ajouter. » Elle voulut me retenir, mais je la laissai en pleurs dans sa chambre, et j'étais parfaitement résolue à ne la revoir seule que s'il m'était impossible d'éviter un tête-à-tête. Lorsque je descendis, monsieur et madame Duchélane me guettaient au passage. Ils me firent entrer dans le salon, dont ils fermèrent la porte avec soin. Ennuyé de ce préambule, je refusai de m'asseoir. « Attendez un instant, mademoiselle, je vous prie, » me dit madame Duchélane. « Ma fille a causé avec vous, vous avez vu son chagrin ?»« Chagrin incompréhensible et avec lequel, je dois l'avouer, je ne sympathise pas du tout. »« Comment ?» s'écria monsieur Duchélane. « Mais elle pleure !» « Elle a les larmes faciles, » répondis-je sèchement. « Qu'elle se domine. Il le faut d'ailleurs si vous ne voulez pas rompre avec M. d'Arlancé. »« Je ne veux pas rompre, mais... »« Cette affaire ne me regarde pas, » dis-je en me tournant vers la porte, « et j'ignore pourquoi vous m'en parlez. » Ils se regardèrent d'un air penaud, car ils n'avaient pas atteint leur but. Et moi, je ne retins pas plus longtemps les paroles qui me brûlaient la langue. Il eût été bien préférable de ne pas montrer à Marie cette malheureuse lettre. « Vous me la baillez belle, » répliqua M. Duchélane d'un ton vertueusement indigné. « Si vous aviez les responsabilités d'un père, vous comprendriez que je ne les assume pas entièrement sur moi. » « Mais, monsieur, vous venez d'affirmer que vous ne vouliez pas rompre. Alors pourquoi augmenter les regrets de votre fille ?» Embarrassé, il s'échappa par la tangente. « Oui, dit-il, je parais me contredire. Le devoir, en semblable occurrence, est si difficile à démêler. » Je saluai pour m'en aller, mais madame Duchélane s'écria. « Chère mademoiselle, laissez-nous vous demander d'expliquer la situation à madame votre tante. Elle verra, elle nous conseillera. » « Jamais, jamais !» « Agissez comme bon vous l'entendrez, mais pour moi, je ne répéterai rien. Si vous voulez que Madame d'Arlancé connaisse les regrets de Marie, c'est que, au fond, vous désirez une rupture. » Sans écouter leurs protestations, je partis précipitamment. Le jeu était évident, mais comment gagnerait-il la partie ? Le jour même et le lendemain, l'attitude de Marie a jeté le désarroi dans l'esprit déjà troublé de ma pauvre tante. « C'est inimaginable !» me dit-elle. « Qu'est-ce qui est inimaginable, ma tante ?»« Mais Jacqueline, ne vois-tu pas toi-même la singulière figure de Marie ? Elle a l'air triste, grognon même. J'ai remarqué ses yeux rouges et les parents que j'ai questionnés m'ont répondu que leur fille était souffrante. » « Je ne la crois pas malade. »« Sais-tu quelque chose, Jacqueline ? » dit ma tante vivement. « Dis-le-moi vite. »« Pourquoi voulez-vous qu'il y ait quelque chose ? » répondis-je évasivement. « Il n'est pas naturel qu'une jeune fille soit triste à la veille de son mariage. Regretterait-elle ses engagements ?» Au ton de Madame d'Arlancé, je compris qu'un secret espoir inspirait sa question. « Croyez-vous que ce soit probable ?» demandai-je. « On voit tous les jours des faits plus extraordinaires. Ma conviction est formée. En voyant de plus près Marie, j'ai compris que sa nature est bien superficielle. Elle cause avec toi, Jacqueline. Vous savez qu'il n'y a entre nous aucun point de contact. « Je sais, » dit-elle en soupirant, « je lui parlerai aujourd'hui. » Mais Marie est l'entêtement même et Madame d'Arlancé n'obtint que cette réponse. « Oh, ne me tourmentez pas, je n'ai rien, je suis souffrante. » « Alors, il faut demander un médecin, je vous enverrai le mien. » « Non, non, je n'ai pas besoin de médecin, je déteste les médecins, je veux être tranquille. » André, absent pour ses travaux, revint le soir de ce jour agité. Encore une semaine écoulée, dans peu de temps, et son air ravi, son geste jeune, achevèrent d'exprimer sa pensée. Mon cœur se serra et ma tante me jeta un regard de détresse. « Il verra demain par lui-même, » me dit-elle quand nous fûmes seuls. Marie a peut-être repris sa bonne humeur. « Non, non, elle a une idée de derrière la tête. Laquelle ? André débrouillera les chevaux s'il le peut, mais il n'est pas patient. » Je me couchai, ballotté par les impressions les plus contradictoires. Autrefois, même en m'effaçant complètement, je ne pense pas qu'une rupture soit un malheur pour le fiancé. Chagrin, sans doute, mais chagrin passager, d'autant que, n'étant plus sous le charme de la jolie figure, les défauts apparaîtraient plus saillants à son imagination. Du moins, c'est ainsi que je juge, mais peut-être comme l'aveugle juge les couleurs, car je ne suis pas l'amoureux. Le lendemain, après une visite matinale à sa fiancée, André est revenu agacé, presque exaspéré. « Ah ça, dit-il à sa mère, est-ce que Marie a eu, en mon absence, quelque contrariété extraordinaire ?»« Je le lui ai demandé. »« Ah, vous avez déjà remarqué sa singulière attitude ? Qu'a-t-elle répondu ?»« Rien, elle est souffrante, dit-elle. »« Elle a une mine superbe. »« Si Jacqueline voulait parler, dit sa mère en se tournant vers moi, je crois que nous apprendrions la vérité. » J'étais dans mon coin habituel, affectant de travailler et ne me doutant pas d'une semblable attaque. « Eh bien, Jacqueline, me dit André, parlez, quel est le sujet de cette grande contrariété ?»« Je n'ai absolument rien à vous dire, répondis-je d'une voix concernée. « Mais vous savez, j'ai déjà répondu à ma tante que je n'avais aucun point de contact avec Mademoiselle Duchélane. Par conséquent, pourquoi serais-je sa confidente ?» « Tu m'as dit cela, en effet, reprit ma tante, mais j'ai bien compris que c'était pour ne pas répondre. » Je devins rouge comme le feu, puis pâle à m'évanouir. En voyant mon émotion, ma tante, toujours bonne, me dit « Nous n'insistons pas, Jacqueline, tu es libre de parler ou de te taire. »« Libre ? Elle n'est pas libre du tout, s'écria André, il faut qu'elle parle. » Ce ton de tuteur me fit bondir. « Je n'ai rien à dire et je ne parlerai pas, » dis-je vivement. « Vous parlerez, Jacqueline. Vous n'avez pas le droit de rien dissimuler sur ma fiancée. Votre fiancée ne me regarde en rien et je ne parlerai pas, » dis-je en appuyant sur les mots pour les bien faire entrer dans sa remarquable tête. il se promena comme un fauve en colère, me traita d'entêté, d'égoïste, de femme sans jugement, que sais-je. La bourrasque le soulageait, mais d'ébranlait nullement ma résolution. « Et vous, ma mère, que croyez-vous » dit-il en s'arrêtant brusquement devant Madame d'Arlancey. « Un caprice, une lubie, que sais-je » « Qu'appelle-t-on un caprice dans le cas présent ? Il faut savoir !»